Pour comprendre la nature et notre espace de vie, c'est dans mon environnement.
Mon environnement, c'est tous les mercredis de 14h à 15h et rediffusion vendredi à la même heure. Mon environnement, c'est avec Sékou Sanou sur la 107.5,
la voix du parlementaire.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la 107.5 FM, la voix du parlementaire, et bienvenue dans votre émission Mon Environnement. La technique Bintou Silla au micro pour la présentation Sanou Sékou Chek. Vous êtes toujours dans votre émission Mon Environnement. Cet après-midi, aimables auditeurs, nous parlons du milieu marin. Et pour vous parler de ce thème, je reçois pour vous M. Sidibé Mohamed Lamine. Il est directeur général du milieu marin et des zones côtières. D'entrée, M. Sidibé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu dans cette émission.
Merci, je vous remercie bien.
Voilà, M. Sidibé, vous êtes directeur général du milieu marin et zones côtières. Dites-nous, c'est quoi ces services?
La Direction générale du milieu marin et des zones côtières est un service rattaché au ministère de l'Environnement qui est en charge de tous les problèmes environnementaux liés à l'océan et à ses côtes. Donc, c'est pour cela qu'on parle du milieu marin et des zones côtières. C'est-à-dire, en un mot, c'est l'environnement marin.
L'environnement marin. Et quel est l'organigramme de votre service, direction, voilà.
Dans notre direction, nous avons des services qui sont en charge de la partie côtière, c'est-à-dire de la zone côtière, ouais. C'est-à-dire tout ce qui va être les problèmes de mangroves, les problèmes d'occupation du domaine public maritime, les problèmes d'installation de ports ou d'infrastructures, et puis les problèmes de pollution, c'est-à-dire côtière. Okay. Et aussi une partie milieu marin où là tout ce qui va être des problèmes, par exemple des risques accidentels de déversement, on va dire d'hydrocarbures par exemple, ou qui est la pollution marine, qui est les problèmes liés au fond marin, des problèmes de prolifération d'espèces envahissantes. Vous faites tous ces aspects là et vous voyez, l'océan est plus vaste que la Terre, donc c'est vous dire que les défis sont immenses. Donc en gros, c'est tous ces domaines-là dont nous sommes chargés de veiller sur le plan environnemental.
Voilà, je parle maintenant de l'organigramme, comment est composé.
Voilà, comment est composé. Ici, nous, en tant que direction générale des services rattachés, c'est-à-dire ici, au lieu de parler des divisions et des sections, donc nous parlons ici des départements et des cellules. C'est-à-dire, donc, nous avons un département qui est chargé des zones portières, qui est veillé à l'évacuation des déchets sur les navires, voir que cela se fait en conformité, que ça ne se fait pas, ne déverse pas en mer. Donc, on a des gens qui sont dans les ports et dans les débarcadères. Et puis, on a des gens aussi qui sont chargés de veiller à l'environnement côtier, tout ce qui est problème de domaine public et choses. Et puis, on a aussi un service qui est chargé de la biodiversité côtière. Okay. Et parallèlement, vous avez le même type de service, mais chargé cette fois-ci de la biodiversité marine. Puis aussi, le même service chargé de la pollution marine. Son pendant terrestre, c'est celui qui est dans les ports. Et vous avez en gros ces trois services-là, et puis un autre service qui est chargé en cas de pollution ou d'intervention d'urgence.
Vous venez d'énumérer les différents services que compose votre direction générale. Parlez-nous un peu du fonctionnement de ces services.
Oui, le fonctionnement de ces services, en fait, je vous ai donné comme ça les grandes lignes de leur fonctionnement.
Ok.
Parce que s'il faut rentrer dans tous les détails, bon, peut-être que ça pourrait ou non intéresser le grand public. Par exemple, si je prends ceux qui sont au port, c'est de, par exemple, veiller à ce que les navires qui viennent, puisque c'est des bâtiments flottants, c'est-à-dire quand ils viennent, ils ont quand même des déchets qu'ils ont produits à l'intérieur, dont ils doivent se débarrasser. On veille à ce que où sont par exemple les déchets qu'ils ont produits. C'est-à-dire c'est des déchets, a priori c'est banal. Et que ces déchets-là n'ont pas été jetés en pleine mer et qu'ils les gardent arrivés ici, qu'ils s'en débarrassent en toute conformité. Et puis de veiller aussi à ce qu'en se débarrassant de ces déchets, qu'il n'y a pas de déchets par exemple radioactifs ou d'autres déchets qui est évacué avec. Donc ce type de contrôle-là, ce sont des contrôles de routine. Maintenant, il y a des contrôles, comme j'ai dit, par rapport au domaine public maritime. C'est de veiller à assurer ce qu'on appelle la police environnementale, veiller au quotidien à toute forme de dégradation, c'est-à-dire que de pollution et d'occupation de la zone côtière. Ces mêmes services existent aussi pour veiller par rapport à tout ce qui se fait en termes de pollution, c'est-à-dire dans la mer. Parce que tout ce qui se passe sur le plan terrestre, ça sent que c'est vrai, toutes ces pollutions marines là sont d'origine terrestre à 80%. Donc il y a un lien entre les deux, mais il y a quand même une séparation des missions pour faciliter l'exécution des tâches. Et comme j'ai dit, il y a un service qui intervient en cas d'intervention d'urgence. Bon, ce service, c'est vrai, on ne le souhaite pas qu'à intervenir souvent, mais son intervention actuelle est de l'ordre de la prévention. Donc, puisque le déversement d'hydrocarbures, ce n'est pas tous les jours qui va nécessiter une intervention rapide. Et ça se fait en corrélation avec d'autres services tels que la préfecture maritime et la marine marchande. Ça, c'est vraiment des cas spécifiques. Donc, il y a des formations pour ça et il y a des interventions spécifiques pour ça.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire. L'émission, c'est Mon Environnement et nous avons comme sujet cet après-midi la problématique des milieux marins. Et pour vous parler de ce sujet, je reçois pour vous M. Sidibé Mohamed Lamine. Il est directeur général de cette direction. Monsieur Sidibé, vous êtes directeur de ce milieu marin. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les caractéristiques du milieu marin?
Les caractéristiques du milieu marin? Le marin, comme j'ai dit, c'est un écosystème. Okay. Donc, c'est l'océan, toute sa biodiversité, c'est-à-dire tant sur le plan faune et flore, mais aussi les zones côtières, donc les rivages, tant sur le plan faune et flore. Donc, il y a tout ça à préserver. Le milieu physique, mais aussi le milieu en tant que quelque chose de vivant. C'est-à-dire à travers la faune et la flore. Donc c'est tout ça en gros. Maintenant, si vous voulez poser des questions spécifiques par rapport à un élément donné, parce que c'est tellement vaste, l'océan est plus vaste.
Vous parlez de la faune et flore. Est-ce qu'il y a-t-il une différence à ce niveau? Parce que sur la Terre aussi, on parle de la faune et de flore. Oui. Et qu'est-ce qui différencie ici la vie de ces deux côtés?
Ouais, la vie de ces deux côtés, l'eau, vous voyez, l'autre c'est sur terre ferme, l'autre c'est dans l'eau. Mais sauf que si vous remarquez, si nous prenons les zones côtières, c'est-à-dire que particulièrement les littorales, la faune et la flore là-bas, il est souvent spécifique. C'est des choses qu'on ne retrouve pas à l'intérieur des terres. Par exemple, vous allez trouver ce qu'on appelle la mangrove. Ouais. Les mangroves que nous trouvons dans ces zones-là ne peuvent vivre que le long de l'océan, c'est-à-dire de la mer. Donc sur le littoral, puisqu'ils se sont adaptés à la salinité, leurs racines sont faites de telle sorte qu'ils ne peuvent vivre que dans ces milieux, ils ne peuvent pas vivre ailleurs, donc ils sont spécifiques à ces milieux et ils ont des rôles spécifiques, tant par rapport, ils s'adaptent aux autres flores qui sont là-bas, mais aussi à la faune qui est là-bas. Par exemple, c'est là où les poissons dans ces zones de mangrove viendront se reproduire, se multiplier, et à croître et rejoindre la haute mer. Et sachant que les 70% des poissons que nous pêchons en haute mer sont des poissons qui sont nés, grandis et qui se sont développés sur le littoral, puis on rejoint la haute mer, donc dans ces zones-là. Donc vous avez des choses qui sont différentes par leur nature, mais qui sont liées par leurs caractéristiques, par le fait qu'ils sont spécifiques à cet environnement donné. Donc c'est vraiment, vous avez aussi le cas des herbiers marins, c'est des herbes, mais qui ne poussent que sous l'eau marine. Et les poissons aussi viennent se développer là-bas, souvent dans les 1 à 3 mètres, c'est-à-dire le long du littoral. On a des herbes là-bas qui sont mangées par les tortues, qui sont mangées par certains poissons, par certains types de crustacés, ils ne vivent que dans cette zone. C'est pourquoi la zone littorale là, c'est-à-dire que, tant par sa partie marine et sa partie côtière, est la zone la plus riche, mais à la fois la plus sensible. Okay. Vous avez vu, à la fois plus riche et plus sensible. Donc riche en biodiversité, et aussi très sensible face aux menaces de dégradation.
Et donc cette végétation ne se trouve qu'en bordure des mers et au fond des océans. On peut trouver cette végétation.
Cette végétation, comme je dis, qu'on appelle par exemple les herbiers marins, sont dans les 1 à 3 premiers mètres. Puisque c'est des plantes vertes, ils ont besoin de photosynthèse. Donc il faut qu'ils soient dans un endroit où ils peuvent accéder à la lumière du soleil. Donc ils ne sont pas à de grandes profondeurs, ils sont tout au plus à 3 mètres ou à 4 mètres. Et l'eau y est souvent claire, transparente, de telle sorte qu'il y a moins de turbidité. Les rayons solaires peuvent pénétrer l'eau et ils peuvent assurer leur photosynthèse et jouer leur rôle par rapport à la biodiversité.
Voilà, puisque ces milieux aussi regorgent des êtres vivants, est-ce qu'il y a une température normale appropriée à ces milieux pour la vie de ces êtres?
Oui, bon, ça dépend de la zone où on se trouve, parce que quand vous êtes dans cette zone peu profonde, il va sans dire que là-bas la température est plus tempérée. Vous avez quand même voilà, une vingtaine de degrés, donc l'eau n'est pas du tout froide dans cette zone, elle est plutôt, on va dire, tiède, parce que c'est normal, c'est peu profond, et il y a assez de chaleur, mais plus vous allez aller en profondeur, il va sans dire que plus vous descendez, vous aurez moins de lumière, mais il y aura moins de chaleur en plus.
Voilà, la superficie maritime guinéenne est une étendue très large. Et quelle est la limite de la compétence de votre service dans le cadre de la gestion de ce milieu marin?
Voilà, les limites où nous pouvons intervenir, c'est les limites qui sont sous juridiction guinéenne.
Okay.
C'est-à-dire que jusqu'au niveau de la zone économique exclusive, donc jusqu'à revenir sur les côtes, c'est-à-dire la zone du littoral. Parce que quand on prend, parce qu'il y a un aspect là, il y a deux versions techniques, c'est-à-dire vous avez le domaine public maritime qui quitte des niveaux les plus hauts des marées, hein, jusqu'à 100 mètres à l'intérieur des côtes.
Okay.
Là, vous avez ce qu'on appelle le domaine public maritime. Mais quand vous prenez la zone côtière elle-même, elle va au-delà de cette limite du domaine public, puisque la zone côtière, c'est toutes les zones qui ont une influence directe ou indirecte sur le milieu marin. Donc, dans ce cas, les spécialistes l'étendent jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres.
Okay.
Donc, vous voyez, et puis maintenant, sur l'ensemble de nos longueurs de côte, qui est de 338 km exactement, parce que souvent on va vous dire 300 km, 300, c'est 338 km, donc de longueur de côte, sur l'ensemble de ces zones-là, jusqu'à la limite de la zone économique exclusive, c'est-à-dire que nous avons autorité sur ces zones-là, sur le plan environnemental. Il y a d'autres services qui ont autorité sur le plan sécuritaire, tels que la préfecture maritime, il y a d'autres qui ont autorité sur le plan des transports des marchandises et des personnes, tels que la marine marchande. C'est pourquoi il y a une répartition des rôles. Nous nous complétons, certains sur le plan économique et commercial, et d'autres sur le plan sécuritaire et nous sur le plan environnemental. Et cette compétence-là est à la limite de nos moyens. C'est quand maintenant vous ne pouvez pas intervenir quelque part, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'en avez pas les moyens, mais pas parce que vous ne l'avez pas dans vos attributions.
Voilà, on parle souvent des marées. Dites-nous, ces marées-là, quelles sont les conséquences sur la vie maritime?
Ben, vous savez, les marées, comme on dit, c'est tout est relatif dans la vie là. C'est-à-dire, vous avez l'influence de la lune, donc et des astres, donc sur qui au niveau de la Terre qui crée ce qu'on appelle le phénomène d'attraction terrestre. Donc, ce phénomène d'attraction terrestre là fait que l'eau deux fois par jour, durant 24 heures, va se retirer, marée basse, puis va remonter marée haute. Donc ça c'est un phénomène permanent et qui se passe deux fois par jour dans tous nos pays, tous les pays côtiers. Donc c'est un phénomène qu'on constate comme ça et ce phénomène-là, la biodiversité sait parce que quand l'eau va monter, par exemple certains choses vivants de l'océan, on va dire de la faune, va remonter avec l'eau, atteindre des zones qu'ils n'auraient pas atteint normalement, telles que les racines des mangroves là, ces zones de mangroves, vous allez voir que l'eau va monter là-bas, Les poissons vont y aller, vont profiter pour pondre leurs œufs, pour faire beaucoup de choses, y compris, se nourrir, puisqu'ils se nourrissent aussi dans ces zones.
Oui.
Et du coup, l'eau en se retirant, certaines espèces vont retourner encore en haute mer avec l'eau en retrait. Mais les œufs qu'ils ont faits vont rester. Les petits qu'ils ont faits vont rester. Ceux-là vont rester parce que le courant est plus bas, la force de l'eau est plus basse dans ces zones-là.
Okay.
Ils peuvent rester pour grandir, gagner en force. Et le jour où ils veulent retourner, ils vont profiter des marées basses pour retourner, rejoindre l'eau. Ou à moins que l'eau soit assez loin, ceux qui auront la force de se déplacer et aller rejoindre l'eau le feront. Mais ces mouvements d'eau-là les permettent de rejoindre facilement les côtes, mais aussi de se retirer et rejoindre la haute mer.
Puisque ces êtres vivants aussi qui sont sous-marins ont besoin d'alimentation, est-ce que votre service a un regard sur l'alimentation de ces êtres vivants dans la mer?
Bien sûr, parce qu'on ne préserve pas le milieu physique seulement, comme j'ai dit, on veille à sa biodiversité. Donc, et du coup, si vous avez un milieu où il n'y a pas de vivant, l'environnement, je ne sais pas, on préserverait quoi? Donc, on a besoin de préserver et le milieu physique, mais aussi le milieu biologique. Du coup, dans ces zones-là, comme j'ai dit, les tortues marines, il y a des tortues, il y a des tortues terrestres, il y a des tortues marines. Les tortues marines viennent se nourrir là, viennent pondre là, se développent dans ces zones-là, y compris des poissons, y compris d'autres espèces du milieu, viennent là se reproduire et se nourrir. Donc, nous veillons à cet ensemble, y compris même aux oiseaux marins qui ne vivent pas dans l'eau, mais qui vivent de l'eau. C'est-à-dire, ils vivent de l'eau au sens où ce n'est pas pour dire qu'ils viennent boire l'eau de la mer, c'est pour dire qu'ils ont besoin de poissons, de crustacés. Donc, ils viennent dans ces zones-là. Vous avez vu quand la marée monte, vous avez parlé des marées là. En se retirant, ça va laisser certaines espèces qui n'ont pas pu retourner avec l'eau.
Tout à fait.
Mais les poissons là viendront les manger plus facilement. C'est plus facile que d'aller les chercher en mer, où ils sont plus forts. Donc, ils peuvent les manger et ils vivent là-bas. Et ces oiseaux-là, il y a des périodes et des saisons où ils ont plus d'aliments et de provisions comme ça. Ben, en retour, ces oiseaux qui se posent au niveau de ces plantes et font des excréments qui aussi permettent de retourner une partie de la matière organique au sol qui sert de fertilisant et tout ça. C'est une chaîne, c'est un cycle. C'est-à-dire la vie est liée, comme disait le chimiste Lavoisier, et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire vous avez un lien perpétuel entre le vivant et son milieu. Le milieu ne peut pas se développer sans le vivant. Le vivant aussi a besoin de son environnement là pour vivre. Et donc vous avez ce qu'on appelle d'ailleurs un écosystème. Voilà.
Alors, pour la préservation de la vie de ces aquatiques, parce qu'il y a des phénomènes de pollution, quelles sont les stratégies de surveillance de ces jeunes à la limite des compétences de votre service?
Oui, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire, comme j'ai dit, notre mission dans les zones sous juridiction nationale n'ont de limite que la limite de nos moyens.
Okay.
Donc, du coup, nous faisons plus de travail de prévention que d'intervention. Puisque il n'y a pas suffisamment de moyens pour intervenir plus loin des côtes et dans certaines zones, donc c'est plutôt le plus souvent un travail de veille, donc de patrouille, de surveillance que nous faisons, où des fois nous sommes alertés par les gens, où des fois c'est au cours de ces patrouilles-là que nos agents sont eux-mêmes constatent les faits, puis on essaye de voir comment intervenir pour mettre fin soit à une source de pollution ou à une dégradation du milieu. Donc c'est comme ça, ça se passe en gros. C'est plus, comme j'ai dit, un travail de prévention, parce que pour intervenir permanemment, ça veut dire que ça coûte plus cher et la prévention coûte moins cher.
Okay.
Voilà, donc c'est ça.
Et en cas, maintenant, si c'est produit, comment vous avez...
Ah, si ça s'est produit,
oui.
C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des cas d'intervention d'urgence. Quand quelque chose se passe, vous avez plusieurs services qui s'associent, l'environnement, le ministère de la Défense à travers la préfecture maritime, y compris la Marine nationale, y compris aussi la gendarmerie fluviale et maritime. Et puis, vous avez aussi d'autres services tels que la Marine marchande. D'ailleurs, quand il y a eu des problèmes de glissement de terrain en Sierra Leone la dernière fois, où des corps se sont retrouvés sur nos côtes, on sait que non seulement c'était un problème social aussi, mais c'était un problème environnemental. Parce que la décomposition de ces corps-là dans un milieu, voilà, c'est quand même bien qu'on sache qu'il y a combien de corps, quels sont les problèmes, quelles sont les choses. Donc, et l'environnement, et la préfecture maritime, y compris la marine marchande, y compris aussi le ministère de la Sécurité et plein d'autres services sont associés. Donc il y a ce cadre-là de collaboration qui sont des cellules de veille en temps de crise ou des groupes d'intervention.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Mon Environnement et notre invité c'est M. Sidibé Mohamed Lamine. Il est directeur général du milieu marin et des jeunes côtières. M. Sidibé, il y a des aires qu'on appelle des aires protégées maritimes. Quelle est la situation de ces aires actuellement en République de Guinée?
Les aires marines protégées, comme on dit, ce sont des zones qui ont été déclarées comme exclusivement ou partiellement, c'est-à-dire soit totalement ou partiellement protégées, tout dépend. Parce que quand ils sont protégés, c'est-à-dire ils sont protégés pour leur conservation. Et du coup, il y a des zones où on peut dire, on décide qu'on peut faire des prélèvements, mais les prélèvements qui sont supportables par la nature, qui permettent à la nature de se reconstituer. Et il peut aussi être des zones où on dit exclusivement parce que, bon, on dit là, dans cette zone, il y a une protection totale, on n'y touche pas, on n'y touche pas. Pour la situation actuelle de ces aires marines-là, vous savez, la dégradation poussée du littoral, y compris de sa biodiversité en termes de mangroves, en termes d'herbiers et autres, crée une raréfaction des poissons et des ressources en protéines, c'est-à-dire en aliments. Du coup, aujourd'hui, les gens vont plus maintenant vers ces zones qu'on dit protégées là parce qu'ils savent qu'autour de ces zones, il y a plus de chances de trouver des poissons. Du coup, ces aires marines qui étaient des zones protégées, comme disait quelqu'un tantôt juste hier qui disait que c'est comme les banques de la nature, quand ça ne va pas, c'est là où on va retirer pour servir là où il n'y en a pas. Mais ces zones-là aussi sont menacées. Parce qu'ils sont menacées pourquoi? Parce que, puisque les gens ont fini de dégrader leur environnement, les zones qui ne sont pas intégralement protégées, maintenant ils commencent à aller vers les zones qui sont protégées pour avoir du poisson. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils auraient dû s'attaquer à la source, veiller à ce que ces zones-là restent intégralement protégées, ou en tout cas assez protégées, en protégeant en amont notre environnement immédiat. C'est-à-dire qui ne sont pas décrétés comme aires marines protégées, mais qui doivent aussi être protégées pour que les poissons, les autres êtres vivants continuent à mener leur vie tranquillement, qu'il y en ait assez pour fournir assez d'aliments aux hommes. Donc aujourd'hui, la situation de ces aires, pour certaines zones, ce n'est pas assez, voilà, cette situation n'est pas assez reluisante. Même si, voilà, ça va par endroit, quoi. Ça
dépend. Et quelles sont les dispositions prises alors par votre service en vue de lutter contre ces phénomènes?
Bon, nous intervenons de façon générale. Okay. Mais on a des collègues ou une direction qui intervient de façon spécifique, c'est-à-dire tant dans les aires marines que dans les parcs et réserves. Donc, ils essayent, ils ont des équipes là-bas. Mais la vérité est que il y a... Ces équipes sont en sous-effectif puisque ce n'est pas un nombre suffisant pour occuper toute une zone. Parce que ces zones-là, normalement, il faut des cinquantaines ou des centaines de personnes. Mais quand vous avez deux ou trois, ou bien une personne, ou des fois tout au plus cinq, vous ne pouvez pas assurer la surveillance dans ces zones-là.
Voilà, monsieur le directeur, aujourd'hui, vous avez parlé tout de suite de la végétation maritime. Je vais parler d'herbiers marins, des mangroves. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces mangroves-là sont sévèrement attaquées. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation?
Oui, les mangroves, comme j'ai dit, c'est des plantes qui sont spécifiques, c'est-à-dire au littoral, donc à la zone marine, et qui ont un rôle multiple. Comme j'ai dit, ce sont des plantes, comme toutes plantes, ils font la photosynthèse, ça veut dire qu'ils séquestrent le carbone, ils libèrent de l'oxygène, et des fois vice-versa, Et quand on voit leur capacité, c'est-à-dire que de séquestration du carbone qui est 8 fois plus élevée que les plantes ordinaires qu'on trouve sur le continent, et sachant aussi que ça sert de lieu de reproduction, de repos et aussi de détente pour les poissons et bien d'autres êtres vivants, et qu'ils permettent même de lutter à travers leurs racines contre l'érosion côtière passée en fixant le sol par leurs racines, donc il y a tout un maillage, et ils retardent l'écoulement d'eau, c'est-à-dire de l'océan vers les côtes, c'est-à-dire ce qui réduit les risques d'inondation, parce que quand il n'y a pas de mangroves et que l'eau vient en vague, peut atteindre les maisons et les habitations, ça accélère l'érosion. Alors que quand vous avez ces mangroves qui sont là, ça ralentit les vagues vers le continent. Quand il y a aussi des inondations en ville où il pleut beaucoup, l'eau va aller vers la mer, parce que c'est l'exutoire final, mais les mêmes racines de mangroves et tout ça vont ralentir cet écoulement d'eau-là vers l'océan, de telle sorte que tous les retraits se font en douce. Et ça joue ce rôle de régulateur, ce rôle de nourriture, ce milieu de reproduction, et puis d'abri pour les oiseaux qui viennent s'y poser, et puis aussi des autres animaux marins. Donc ça a un rôle incalculable. Malheureusement, c'est peu connu des gens. Sinon, s'il y avait à choisir entre nos forêts que nous avons sur terre ferme, et préserver ces forêts-là, et préserver les forêts de mangroves, je ne parle pas des forêts primaires que nous avons, qui nous permettent d'avoir bien d'autres choses, mais les forêts ordinaires là que nous avons, entre les forêts de mangroves, il n'y a pas à hésiter, on allait préserver les forêts de mangroves, parce que ça nous protège, ça protège nos sources de nourriture, ça protège... ça séquestre le carbone. Tout le monde parle de changement climatique. Imaginez quand vous avez une plante qui peut séquestrer 8 fois plus de carbone qu'une plante ordinaire. Vous avez besoin de quoi? On a plus besoin d'eux que de l'autre. Ça veut dire que en termes de rôle, une seule plante de mangrove va jouer 8 fois à taille équivalente. C'est-à-dire que le rôle d'une plante est 8 fois le rôle d'une plante terrestre. Donc vous voyez un peu quand même...
Voilà, vu la dégradation actuelle est très poussée, est-ce que votre service a pris des stratégies en vue de lutter contre cette dégradation?
On le fait et on le fait très particulièrement. Si j'avais même su que vous... on allait se voir au plus tôt, j'allais effectivement partager avec vous certaines images pour vous dire un peu qu'on le fait et qu'on a même l'habitude d'alerter par rapport à ça, y compris la hiérarchie, mais aussi la population, c'est-à-dire par rapport aux risques que nous encourons, parce qu'il y a des dégradations énormes sur notre littoral et nous on a recours souvent à des images satellites qui permettent de voir, c'est-à-dire sur des superficies plus grandes. Et non seulement on voit sur des superficies plus grandes, mais on peut voir aussi reconstituer l'historique du milieu, savoir comment était le milieu il y a 5 ou 10 ans. On le compare au milieu 5 ou 10 ans après, aux images, quand on les superpose, on voit la progression de la dégradation et on voit même l'activité qui est souvent à la source. Et comme on dit, c'est-à-dire en autorisant des occupations dans certains milieux, c'est comme si vous donnez le doigt, mais tous les bras y passent. Il y avait une fois une entreprise chinoise qui s'est installée vers Dibreka, un service leur avait donné de s'installer sur 1600 mètres carrés. Mais sur 1600 mètres carrés, ils ont multiplié ça par 10.
Au port de Coopérin, vous voulez parler?
Coopérin.
Ok.
Et c'est moi qui ai soulevé ce problème. Et ça, c'est à travers les agents qui sont passés en patrouille pour vérifier à notre site, puis ils ont constaté là-bas, on a été sur les images satellites, puis on a reconstitué la dégradation, et c'est extraordinaire. Donc quand vous voyez toute la dégradation qui a été faite là-bas, où les gens ont quand même d'un problème de même pas 1600 mètres carrés, ils s'en sont venus jusqu'à dégrader plus de 2 hectares de forêts vierges de mangroves.
Ça fait mal. Voilà, il y a un cas... un exemple typique. Aujourd'hui, je vais parler de, du quartier Jimbaya-Faban.
Ah oui, à Faban.
Et
oui.
Aussi à Tombolia, où les gens sont dévastés, la forêt, ils se sont installés, des buildings sont en train de pousser. Et l'année dernière, on a vu une équipe départementale qui est allée faire des marquages sur ces habitations.
Oui.
Où en est-on?
Moi-même, j'y étais, c'est vrai.
Voilà.
J'y étais.
Où en est-on par rapport à la démolition en vue de la restauration de cet écosystème?
Voilà. Il a été demandé de faire un recensement. Le recensement a été fait, je me rappelle même, a été fait dans la zone pour savoir qui occupe quoi, depuis quand et de quel droit. Et de ce fait, vous avez vu tous ces dossiers-là. Vous allez voir, certains ont des photos, d'autres non. Donc, on a recensé, vous avez vu, le service est passé, on a recensé. Il y en a qui ont fourni des documents, il y en a qui n'ont rien fourni. Donc, tout compte fait, à 90%, un recensement de la zone a été fait. Le recensement a été arrêté par la saison des pluies. Et on comptait le reprendre là bientôt. Mais, déjà avec les 90%, on a une idée de la zone et un rapport est en cours, donc adressé au département pour donner la situation des lieux. Et il appartient, nous, en tant que service technique, nous faisons ce qu'on appelle un travail technique, à la fois de constat, d'intervention, mais aussi voilà, de proposition. Et à travers ce rapport que nous allons faire, il appartient à l'autorité politique, c'est-à-dire de se prononcer sur ces problèmes, voir est-ce qu'il faut autoriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas autoriser, dans quelles limites. Et après, il nous appartiendra à nous de veiller. C'est-à-dire, nous allons dire, voilà l'occupation de la zone, voilà les impacts, voilà ce qui s'est passé, et voilà ce que nous recommandons. Et l'autorité dira, voilà, nous voulons que les gens puissent s'installer ou non. Non, 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 ou ils seront dégarpis. Donc, c'est l'autorité qui se prononcera. Donc, on attendra les consignes.
Il y a déjà eu des croix sur ces bâtiments.
Il y a eu des croix.
Bâtiments.
Et vous savez,
oui.
Les croix, il y avait des bâtiments qui étaient dans des zones qui, au premier constat, sont dans des zones où ils ne devraient pas rester. Donc, il y a eu des croix. Ces zones-là doivent être, démolies pour déguerpir les occupants. Ça, c'est assez clair. En tout cas, telle était l'idée qui a poussé à ce qu'on y mette des croix. Maintenant, il y a des lieux où ça doit être étudié pour voir là où ils sont, quelle est la conduite à tenir. Ce qui est clair, c'est ce qui a été décidé. Mais vous savez, quand vous faites ce travail technique-là, vous avez besoin d'aller au même pas de cadence que l'autorité politique, voilà, qui est aussi le responsable de l'autorité administrative. Donc, on est un peu dans cette situation. Nous attendons que des instructions, puisque quand tout acte que vous ferez là-bas, ben, il va sans dire que le répondant au niveau supérieur, c'est l'autorité politique. Donc, c'est eux qui donnent les consignes. C'est eux qui définissent les exceptions éventuelles, mais toujours est-il que nous, les lieux sont identifiés et que les marquages sont faits. Et il a été dit aussi à toute personne de geler toute activité de construction. Quiconque le ferait actuellement, le ferait de façon illégale et soit en complicité ou non avec des cadres locaux. Voilà, à quelques niveaux que ce soit.
Et dans les conditions normales, quelle est la distance à respecter entre cette mangrove?
Ah, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire, non seulement, je vais vous dire cette distance, mais cette distance, elle a été largement dépassée.
Okay.
C'est-à-dire que, comme j'ai dit, partout où vous avez la mangrove, c'est que vous avez la mer qui arrive.
Oui.
J'ai dit tout de suite que le domaine public maritime commence du niveau le plus haut des marées, c'est-à-dire la haute marée, jusqu'à 100 mètres à l'intérieur des terres. Donc, jusqu'à 100 mètres à l'intérieur des terres, ça veut dire que de cette zone de mangrove-là, où il n'y a plus de mangrove du tout, là, la limite supérieure, là. Vous mesurez jusqu'à 100 mètres à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Puisque cette zone-là a été occupée. Ça veut dire que, à Fapan, ce n'est plus le domaine maritime public qui est occupé. Hein. Les gens ont occupé le domaine public maritime, les 100 mètres. Mais ils ont remblé la mer qu'ils sont en train d'occuper maintenant. Donc on n'est plus dans le domaine public maritime, en tout cas pas terrestre. On est dans le domaine public maritime, dans sa partie marine. Ça veut dire dans l'eau.
Et quelles seraient les conséquences si, au cas où l'autorité politique arrivait à autoriser...
Non, mais d'abord, avant même qu'on arrive aux conséquences d'abord humaines, les conséquences environnementales. Puisque quiconque a fait un peu de physique sait que l'eau est incompressible. Par définition, vous pouvez compresser l'air, comme dans nos pompes, mais l'eau est incompressible. Vu qu'il est incompressible, quand vous poussez l'eau, vous le poussez quelque part.
Tout à fait.
Mais il ne se comprime pas. Comme il est incompressible. Donc, tous ces remblais-là, toutes ces constructions-là, poussent l'eau quelque part. Et en poussant quelque part, c'est des inondations, c'est des érosions. Et après, quand là où on le pousse, ça ne peut plus aller, qu'est-ce que ça fait? Ça revient là où elle était.
Ouais.
Donc, on dénature, et disons, on perturbe l'équilibre environnemental, l'équilibre dynamique naturel qui était là est perturbé. Et quand c'est perturbé, c'est ça qui amène à des ravages. Vous pouvez être couché un jour la nuit dans votre beau villa que vous avez construit à coup de milliards, et puis d'ici le matin, dira une forte pluie, l'eau terrestre venant correspondre à la montée des eaux, donc de haute marée, tout de suite vous vous sentez englouti, hein? Comme c'est arrivé une fois là à Sangoya, où vous savez, les gens, c'est un problème des bras de mer. Ils ont réduit les bras de mer de telle sorte que les gens ne se rendent pas compte que quand vous réduisez un conduit de circulation d'eau, l'eau étant incompressible, vous augmentez la vitesse de circulation. C'est un principe physique connu. Voilà, c'est-à-dire que même dans un tuyau d'arrosage, quand vous pressez sur le bout du tuyau, le volume d'eau qui sort, c'est-à-dire en termes de volume, c'est réduit, mais en termes de vitesse, ça augmente. D'ailleurs, les gens font pour arroser ou pour laver des voitures, on presse le bout et l'eau sort plus fort. Ou ceux qui lavent les voitures, vous allez voir, c'est un truc qu'ils mettent au bout où le bout est plus petit. Donc, ça permet à l'eau de sortir par un petit trou et ça sort avec plus de vitesse. Donc, chaque fois, nos bras de mer, en les réduisant et en mettant du béton tout au long, l'eau va couler avec plus de vitesse. Et cette vitesse-là va arriver. Ce qui obstrue devant, ça casse des murs, ça emporte des maisons. C'est ce qui arrive souvent. Alors, il y en a qui se sont retrouvés, le temps de se lever, le lit, la valise, tout s'est retrouvé à mer. Et de justesse, ils ont eu la vie chaude puisqu'ils ont pu courir, mais ils ont tout perdu. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais les gens pensent que c'est des phénomènes, des trucs, c'est prévisible.
Alors, monsieur le directeur, les croix sont mises au cas où on arrivait à démolir ces habitations dans cette zone de mangrove. Qu'allez-vous faire pour la restauration de ces...
Voilà, parce que d'ailleurs c'est l'idéal que dans certaines zones que les gens puissent être déguerpis, parce qu'il y a deux aspects, parce que comme j'ai l'habitude de dire, soit l'État déguerpit totalement ces zones, décide de les restaurer, ou soit l'État dit on veut les occuper, mais dans ce cas l'État accompagne l'occupation. Mais ce qui se passe actuellement, c'est une occupation anarchique. Quand vous voyez les terrains qui sont là-bas, c'est des terrains à figure quelconque. Hein? Des rectangulaires, des carrés, des triangles, des losanges. Vous avez toute forme. Quand vous regardez sur l'image satellite, ça se voit, hein? Toute forme. C'est la preuve d'ailleurs que le terrain n'a pas été vendu légalement. Sinon, personne ne sait qu'il n'y a pas de terrain triangulaire. Hein, qu'on vend aux gens, il n'y en a pas. On peut peut-être dire carré, on peut dire rectangle, mais pas des triangles, pas des losanges, hein, pas des choses, comment dirais-je. Donc on a des figures quelconques. Ça veut dire que la personne fait quoi? Occupe un bout, remblai, acquis mieux, jusqu'à là où tu peux t'arrêter. Mais c'est de l'anarchie totale. Vous voyez les routes, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès, chacun se débrouille comme il peut. Donc soit l'État accompagne l'installation, ou l'État fait déguerpir les gens. On ne peut pas être ni l'un ni l'autre.
C'est...
Maintenant, Comme vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire après si jamais les gens doivent être dégarpis? Mais on sait que au niveau des mangroves, il y a ce qu'on appelle une régénération naturelle. Si les gens abandonnent au bout de quelques temps, ça peut reprendre. Mais à défaut aussi, on peut aider la régénération en faisant aussi du reboisement. Les deux peuvent aller de pair pour accélérer. Mais pourquoi on dégarpit? Parce que les gens ont tendance à penser souvent que ce milieu est un milieu vide, inutile, alors que les gens n'ont pas d'espace en ville. Oui. Non, ce milieu est une zone, c'est une zone tampon. C'est-à-dire une zone tampon, veut dire que c'est une zone qu'on laisse, une sorte d'espace de protection. Pour l'eau, la mer en montant peut trouver de l'espace où aller et revenir. Les animaux aussi peuvent trouver une zone où ils peuvent se reproduire et pondre. Donc, c'est une zone vitale. Ce n'est pas une zone comme ça. Et puis, c'est une zone humide. Une zone humide, par définition, où il y a tout le temps de l'eau et de l'humidité. Ces zones humides-là, par définition, sont des zones qui permettent de jouer un rôle de chiffon. Ils absorbent le trop-plein d'eau qui vient de la mer. Comme ça, au lieu que l'eau va occuper les habitations, ça va occuper un espace vide. Après, ça retourne à la mer. Quand il y a trop de pluie en ville, ça va aller là-bas. Et puis après, ça va retourner en mer progressivement. En fait, donc, c'est une zone de protection. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. Quand nous sommes en train d'occuper toutes ces zones aujourd'hui pour enlever la forêt, qui à la fois, non seulement protège ses côtes, mais absorbe de l'eau et en plus rejette une partie dans l'atmosphère. Ouais. Mais quand il n'y en a plus et en place, on met du béton, ça veut dire qu'on réduit la capacité d'absorption du sol, on augmente le volume d'eau qui ruisselle vers la mer. Donc, du coup, et nous sommes en train de multiplier les problèmes. On pousse la mer, puis on augmente l'eau qui ruisselle vers la mer. Les phénomènes et les éléments physiques et naturels qui permettent d'absorber cette eau ou de nous protéger, on les détruit. C'est pourquoi, si vous voyez même sur la petite image, là je viens de m'en souvenir, vous avez vu le monsieur qui coupe avec une hache la mangrove. C'est la mangrove qui le protégeait, lui sa petite maison. Mais lui s'est dit non, si j'enlève les mangroves, je vais augmenter ma cour, je vais augmenter mon espace. Il l'a fait, mais le problème est que l'eau a mangé les côtes, a grignoté, puisque c'est les mangroves, et finalement a grignoté la maison. Donc plus de mangroves, plus de maisons. C'est-à-dire qu'il a tué la poule aux œufs d'or. Ouais. C'est-à-dire que, croyant que, vous savez l'histoire de la poule aux œufs d'or, on dit un monsieur qui avait chaque fois sa poule qui pondait des œufs et de l'or. Et lui, il venait le matin, il prenait ses œufs en or là, il en profite, ça lui fait de l'argent, il est riche, il vit de ça. Mais un jour, il s'est dit, mais attends, par cupidité, mais puisqu'il pond des œufs, mais moi maintenant, voilà, je ne veux plus me contenter des œufs qu'il pond, mais si j'ai tué la poule pour prendre tous les œufs qui sont dedans, mais il oublie qu'en tuant la poule, il n'aura plus d'œufs. Il va tuer, tu vas prendre beaucoup d'œufs sur place, mais ça va s'arrêter là. C'est ce que les gens font, ils tuent la poule aux œufs d'or.
Alors, monsieur le directeur, vous avez parlé de ces dossiers. Est-ce que ces dossiers sont-ils authentiques ou bien comment, selon vous, ces dossiers-là ont été constitués?
Bon, ces dossiers...
Parce que vous avez déjà fait un regard dans ces...
C'est vrai que je n'aurais pas souhaité me prononcer sur ces dossiers, mais je vais vous donner quand même une idée. Parce que comme ce n'est pas... On est encore en cours de processus. Mais ce que je peux vous dire, dans la plupart des cas, les dossiers n'ont aucun fondement légal. Certains n'ont même rien. Quand je dis rien, ils n'ont rien. Et ceux qui présentent quelque chose, ils présentent quelque chose aussi qui n'a pas de fondement. Ce qui est clair, il n'y a pas de titre foncier. Personne n'a de titre foncier. Mais les dossiers aussi qu'ils présentent, c'est des documents délivrés par des chefs de quartier et des maires. Et alors que ce n'est pas eux qui sont habilités à donner des terres. L'habitat, en tout cas pour les documents qu'on a encore, personne n'a un document de l'habitat ou de quelque état, service que ce soit. En tout cas, de centrale de l'État. Et il se trouve aussi que dans nos investigations, on a même vu des dossiers où il y avait, on va dire, un acquéreur, mais pas de cédant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que vous avez un acheteur, mais il n'y a pas de vendeur.
Oui.
Mais il est signé, mais il y a des témoins. C'est quand même assez
alors
grave.
Il a acheté.
Non, mais avec un fantôme. Ou l'esprit de son grand-père. Surtout, on dit qu'on achète au coutumier. Et pourtant, quand vous regardez les images satellites, c'est des zones où depuis 10 ans, 20 ans, il n'y a que la mer, l'eau. Personne n'avait un champ là-bas. Personne n'avait, un campement. Alors, vous comprenez, ça ne doit pas vous surprendre. Alors, si vous avez quelqu'un qui a acheté, mais il n'y a pas de vendeur, ça vous dit que c'est une histoire de fantôme, donc fabriqué de toutes pièces qui n'a ni technique, ni. C'est pourquoi l'affaire des coutumiers se vérifie facilement sur terre ferme,
ouais.
Mais c'est une arnaque quand il s'agit du domaine public maritime, mais une arnaque vérifiable,
ouais.
En tout cas facilement vérifiable, puisqu'on peut démontrer que depuis 20 ans, 30 ans, dans cette zone, il n'y a eu que l'eau. S'il n'y a eu que l'eau, vous l'avez acheté à quel coutumier? Le coutumier a fait faux et disait de faux et complice de ces conneries-là. Et le coutumier et l'acheteur, y compris ceux qui signent, peuvent être poursuivis.
Tout ça.
Oui.
Oui. Voilà, monsieur, vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire. L'émission, c'est Mon Environnement et nous avons comme invité cet après-midi monsieur Sidibé Mohamed Lamine. Il est directeur général du milieu marin et zone côtière. Monsieur le directeur, l'année dernière, il y a eu une proposition de loi qui a été rédigée au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture par rapport à cette loi sur le littoral?
Oui, vous parlez de la loi littorale.
Oui, oui.
Oui, la loi littorale qui est toujours en cours et je veux dire d'élaboration, qui n'a pas été encore soumise dans sa version finale.
Ouais.
Moi-même, j'ai participé, au débat, y compris au déplacement que nous avons fait dans les 5 préfectures du littoral, au débat qu'on a fait avec les parlementaires, y compris à la sensibilisation, à l'interpellation des autorités sur l'importance du sujet. Parce que la loi littorale est une loi spécifique au littoral. Puisque quand vous prenez l'environnement, c'est-à-dire que le code de l'environnement, c'est un texte, c'est une loi cadre, c'est-à-dire qui encadre, qui pose les grandes lignes, disons les grands principes, comment protéger l'environnement, quels peuvent être les tenants et les aboutissants. Il ne permet pas ou ne peut pas permettre facilement de protéger un milieu spécifique et qui a un rôle aussi capital et qui est aussi sensible comme le littoral. Donc il faut une loi spécifique qui est propre au littoral, qui va dire comment, par exemple, parce que si je prends nos codes de loi, le code de l'environnement, il ne va pas dire, par exemple, si pour, même pour cause d'utilité publique, il va dire on peut occuper le domaine public maritime, mais si on l'occupe comment? Ça, le code de l'environnement ne le dira pas, vous ne verrez ça nulle part. C'est la loi littorale qui peut permettre de dire, même si l'État lui-même veut occuper le domaine public maritime pour cause d'utilité publique, il y a des critères d'aménagement. Ces critères d'aménagement, par exemple, un exemple, une réalisation, une infrastructure ne doit pas, par exemple, dépasser 30% de l'espace occupé. Donc, ça doit être en structure démontable et puis en structure qui s'adapte à l'environnement marin. Donc, il s'intègre dans les milieux, donc il y a moins d'impact. Ce type de caractéristiques-là sont des éléments que nous pouvons intégrer dans la loi littorale pour que notre environnement soit mieux protégé, que ce ne soit pas seulement des principes où on dit c'est interdit ou c'est autorisé. Et quand c'est autorisé comment? Et ça, les détails-là doivent venir dans la loi littorale et qu'on puisse savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire subir aux contrevenants en termes de sanctions pénales ou aussi en termes de réparation, tant de restauration que tant aussi de mise à l'amende.
Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Quel est votre plan d'action pour le milieu en vue de réalisation de bons résultats
Oui, c'est vrai qu'on a... il y a plusieurs éléments dans le plan d'action dont je parle en gros. Par exemple, nous on agit à plusieurs niveaux parce que l'océan aujourd'hui c'est ce qui nous lie au reste du monde. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ils ne se rendent pas compte, l'océan devait attirer le plus notre regard, y compris le regard des autorités, dans la mesure où c'est là où les partenaires sont plus à même de vouloir mettre beaucoup d'aide aujourd'hui, puisque nous avons ça en commun. C'est comme aujourd'hui le problème des déchets marins. Les Occidentaux ont tout fait, mais ils se rendent compte que s'ils agissent chez eux, ils n'agissent pas chez nous. Les déchets que nous produisons ici peuvent se retrouver chez eux, ce qu'ils produisent là-bas peut se retrouver ici. Donc nous avons ça en commun. Les pollutions, Hein, les poissons qu'ils pêchent, c'est pêché dans les mêmes océans. Voilà. Et du coup, c'est une sorte de vase communicant et ils ont intérêt à ce que nous agissons ensemble. Donc nous agissons alors à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional, dans le cadre des partenariats et même au niveau mondial. Donc en étant dans des grands débats, dans des grandes réunions sur ces sujets-là, pour pouvoir un jour bénéficier des solutions qui seront arrêtées au niveau mondial, il y a cet aspect. On est aussi état partie de la convention d'Abidjan, qui est la convention sur la valorisation, la protection, donc y compris la mise en valeur de l'environnement marin sur 14 000 km quand même de côte de l'Afrique du Sud jusqu'à la Mauritanie, disons la côte atlantique. Et donc moi-même, je suis non seulement c'est directeur du milieu marin, mais je suis le point focal national de cette convention. Et bientôt d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons faire 3 jours de réunion sur les protocoles additionnels de cette convention pour voir comment mettre en œuvre ces protocoles additionnels-là dans les différents pays. Parce qu'on s'est rendu compte que si on se limitait aux lois au niveau national, on ne peut pas faire avancer les choses plus rapidement. Mais en prenant des lois au niveau régional, ces lois-là vont agir comme des directives qui doivent être mises en œuvre et intégrées dans les lois nationales pour permettre d'avancer. C'est comme en Europe, vous avez l'Union européenne qui a des directives qui sont appliquées dans chacun des États membres. Donc c'est un peu cette idée-là, avoir des lois au niveau régional qui vont être appliquées au niveau national dans chaque État. Donc nous agissons sur ce plan, nous agissons aussi au niveau national, où nous devons élaborer des plans d'intervention d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures et qui sera mis en œuvre par plusieurs services partenaires. Donc on a plusieurs activités comme ça. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pourquoi je suis toujours mal à l'aise quand je parle de plan d'action, parce que vous pouvez faire tous les beaux plans du monde, vous pouvez faire sur X pages, mais s'il n'y a pas de financement, vous n'avez pas de plan. C'est pourquoi un plan doit être budgétisé. Ouais. Mais vous le budgétisez, s'il n'y a pas un rond. Mais c'est un perpétuel recommencement. C'est pourquoi j'ai toujours ce problème à ceux qui viennent me voir pour m'évaluer sur le plan d'action que j'ai fait. Je leur dis toujours, j'aimerais vous voir pour voir votre plan que vous avez fait. Est-ce que vous avez pu trouver des financements? Quand maintenant, la troisième fois, je vous vois, ou deuxième fois, c'est pour me dire, est-ce que vous avez pu mettre en œuvre? Mais on ne le voit que pour demander si vous avez pu mettre en œuvre. Mais on met en œuvre avec quoi? Vous avez vu, c'est un peu un jeu d'hypocrisie quand même de la part de certains services de l'administration que je déplore
d'ailleurs. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Ah ben, ces difficultés-là, c'est ça. Mmh. Imaginez, nous sommes un service d'intervention. Quand même, parce qu'un service de veille et d'intervention, un service d'intervention dont les cadres doivent être à 80% déployés sur le terrain, actuellement, au moment où je vous parle, nous n'avons aucun véhicule d'intervention.
C'est dommage.
Hein? Oui. Il y a quelques rares motos, mais quand vous voulez faire des saisies, vous allez saisir sur mettre sur une moto? Non, vous ne pouvez pas arrêter. Et puis des villas de milliardaires, vous allez arrêter quoi? Vous ne pouvez pas arrêter les travaux. Oui. Vous avez vu maintenant, je n'ai pas voulu vous dire ça quand vous me dites on a mis des croix. Mais on a mis des croix, on le sait. Mais je vous dis que c'est malgré moi que je vous parle de cet aspect, mais nos moyens d'intervention sont dérisoires. Je ne dirais même pas limités, sont dérisoires, pour ne pas dire aussi inexistants. Donc c'est notre gros problème. Et puis on est aussi en sous-effectif. Pas seulement qu'il n'y a pas de personnes qui puissent travailler, mais de local. Parce qu'il doit y avoir une corrélation directe entre les personnes et leur cadre de travail. Vous ne pouvez pas les appeler et les installer dans le couloir. Il faut qu'ils puissent être dans les bureaux. Donc, il faut se donner les moyens de notre mission.
Et alors, ça, on l'a pas. Nous sommes au terme de notre émission. Vos derniers mots de la fin?
Mon dernier mot, c'est de faire un appel à la fois et aux autorités, mais aussi à la population, aux autorités pour dire que c'est vrai, l'État a beaucoup de choses à faire. L'État est même débordé sur certains plans, mais sauf qu'il y a le bon moment, comme disent les Malinkés, le moment pour une chose peut ne pas passer, mais le bon moment peut passer. Il y a des dommages dans cette zone sensible-là de l'environnement marin qui sont des dommages irréversibles. Ça veut dire que si vous ne le faites pas maintenant, vous n'agissez pas maintenant, ça veut dire même quand vous serez prêt, vous aurez la volonté et les moyens, vous ne pourrez plus rien faire, le mal est fait. c'est-à-dire irréversible, on ne peut plus revenir en arrière. Donc pour cela, il appartient à l'État d'appuyer nos services pour que nous puissions prévenir et éviter ces dommages irréparables. Par rapport à la population, que la population sache que ces dommages qui sont causés ne sont pas qu'au détriment de l'État, parce que ceux qui nous gouvernent sont aussi des citoyens. C'est-à-dire ils sont seulement ceux qui nous donnent des consignes, qui veillent à l'intérêt public, mais ils sont des citoyens. Donc le mal que nous ne faisons pas à ceux-là seulement, nous faisons à nous tous. C'est-à-dire s'il y a inondation, l'inondation ne va pas choisir qui est de l'État, qui ne l'est pas. C'est un dommage qui peut toucher tout le monde. Et s'il n'y a plus de poissons, ah ben là, ceux qui aiment le bon Congo, là, et qui aiment avec huile ou sans huile, ah, là, il n'y en aura plus. Hein. Là, je crois que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont manger de la viande, et s'il y a assez de forêts encore pour nos bœufs. Donc, je ne sais pas. Donc, il faut quand même voir. Je vous donne un petit juste truc. Regardez, il y a de ces animaux-là, domestiques, qu'on ne voit presque plus. Dites à nos enfants, nos petits-enfants, s'ils connaissent un âne. Combien ont vu un âne, à part dans les livres? C'est pas loin, hein? Hein? C'est pas loin, c'est pas sauvage, hein? Je parle pas de l'hyène, là. Je parle de l'âne, qui a presque disparu. Et puis c'est comme ça. Quand ça disparaît, il n'y a plus de semences, on va en trouver où? On va en parler comme dans la préhistoire. Il y a tel animal qui existait, mais qu'il n'y en a plus. Donc il y a des dommages qui sont irréparables. Et il y a des choses aussi qui ont une importance, pas seulement simplement économique, qui ont ce qu'on appelle une valeur d'existence. Le fait d'exister seulement est une valeur, parce qu'ils ont un rôle dans la chaîne, soit alimentaire, soit un rôle dans la chaîne du vivant. C'est-à-dire l'équilibre biologique, ils ont leur rôle pour que d'autres choses existent. Donc c'est cela que je voudrais leur dire.
Voilà, aimables auditeurs, c'est la fin de votre émission Mon Environnement. Nous avons eu comme invité cet après-midi Monsieur Sidibé Mohamed Lamine. Il est directeur général du milieu marin et des zones côtières. À la technique, Bintou Silla au micro pour la présentation. Sano Sekou Chek, merci de votre aimable attention. Au revoir.
C'était votre émission Mon Environnement.
Mon Environnement, c'est tous les mercredis de 14h à 15h et rediffusion vendredi à la même heure.
Mon Environnement, c'est avec Sekou Sano.